Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Il y a 60 ans, les récepteurs de télévision étaient moins de 25 000 en France. Les toutes premières émissions voyaient le jour. Et Franck Ferrand revient aujourd'hui sur cette époque héroïque des débuts de la télé. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Nous faisons de l'histoire immédiate aujourd'hui et de l'histoire collective, de la mémoire en quelque sorte. Nous avons tous à l'esprit un certain nombre d'émissions plus ou moins récentes, plus ou moins mythiques et qui ont marqué, qui ont accompagné les moments de la vie de chacun. Ces émissions cultes, 500 d'entre elles font l'objet d'un magnifique album coédité par Lina et Flammarion et commenté par Michel Drucker en personne qui nous fait l'amitié d'être avec nous dans ce studio aujourd'hui. En sa compagnie et avec aussi son co-auteur Gilles Verland et l'ancien patron de Lina, Emmanuel Hogue, nous allons prendre en cet automne un petit peu maussade un bain bien chaud de nostalgie.
Alors si vous aussi vous avez des souvenirs en noir et blanc ou en couleur, c'est le moment de nous adresser vos messages via le site internet d'Europe 1 et notre réseau social préféré, un indice, il est bleu. Hein.
Nous avons un, ou plutôt une quatrième invitée, qui est Isia, la chienne de Michel Drucker.
Elle
se
promène
gentiment sous la table, elle est très sage. Alors pour revenir aux sources, nous repartons 80 ans en arrière, au tout début des années 30, afin d'assister à la première retransmission télévisée de l'histoire.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Nous sommes en 1931 dans le laboratoire d'un génie. Allons, n'ayons pas peur des mots pour commencer cette semaine. Le génie en question s'appelle René Barthélémy. C'est le fils d'un petit tailleur de Nangis qui a été poussé dans ses études par des maîtres intelligents qui ont su voir en lui la petite étincelle. Vous savez, à 22 ans, il est radiotélégraphiste à la Tour Eiffel et il entre ensuite à la compagnie des compteurs de Montrouge. C'est là qu'il met au point sa trouvaille. La trouvaille en question, on va en faire une première expérience publique entre le laboratoire de Montrouge et, alors vous avez là-bas une employée qui s'appelle Suzanne Bridoux, qui est filmée de profil devant un gros micro, et puis un amphi de l'école supérieure d'électricité de Malakoff, où sur un écran de 40 cm de côté à peu près, s'affiche son visage animé. Quand je dis s'affiche son visage, l'image est vraiment très troublée, vous savez, il n'y a pas beaucoup de lignes encore. Mais vous imaginez l'ébahissement de la foule, car les gens sont venus en foule. Il y a plus de 500 spectateurs ce jour-là. Ils pourront, ces gens-là, se vanter d'avoir vu la première image télévisée de toute l'histoire. L'expérience a lieu en 1935. Entre 37 et 39, l'émetteur de la Tour Eiffel émet quelques programmes dans un rayon de 100 km. Depuis un studio de 20 mètres carrés installé à l'école supérieure des PTT rue de Grenelle, c'était la danseuse, si je puis dire, de Georges Mandel, cette affaire. Le standard est de 180 lignes, vous voyez, il va passer à 455 lignes, donc là on commence à avoir une image nettement plus nette. Seulement la guerre survient. En août 41, ordre de Berlin, démanteler l'émetteur de la Tour Eiffel afin de récupérer tout le matériel. Quelques Allemands en poste à Paris se mobilisent, dont le célèbre Kurt Hinzmann. Kurt Hinzmann, il vient de la radio-télévision berlinoise. Il s'est entendu avec le régime de Vichy, on va pas entrer dans tous les détails politiques de l'affaire, on est en pleine collaboration bien entendu, mais il va créer une chaîne de télévision allemande qui émet à Paris pour les soldats blessés de l'hôpital Beaujon, c'est la Fernsehender Paris à l'époque il n'y a pas beaucoup de récepteurs, hein, environ 300. On cherche un lieu pour les studios, alors on pense au théâtre Georges V qui est trop petit, le théâtre des Champs-Élysées n'a pas de dépendance suffisante, le palais de Tokyo a une mauvaise acoustique, et c'est Hinzmann qui découvre, rue de l'université, près du pont de l'Alma, le Magic City Dancing, où l'on donne des spectacles de music hall, où avaient lieu aussi des meetings. Il y a juste à côté un grand terrain, il y a un grand garage. Au fond, donnant sur la rue Cognac-Jay, il y a une pension de famille qui s'appelle la Familiale de l'Alma. C'est une pension de famille qui a dû fermer dans cette période de l'occupation. Et donc, avec ce Magic City et la Familiale de l'Alma, eh bien, ça fait des locaux suffisants pour créer ce qui va devenir les premiers studios de télévision en France, inaugurés le 30 septembre 1943. C'est une télévision sur laquelle on aura peut-être l'occasion de revenir, mais il y a un certain nombre de personnes qui y ont fait leur début. Je pense à l'acteur Jacques Dufilho, par exemple, ou à Mouloudji, qui était tireur de câbles dans cette petite télévision allemande. Bien sûr, on montrait les actualités allemandes, vous imaginez bien. Mais pour le reste, on faisait aussi du cirque, du musical, des variétés, sous la direction de Gilles Margaritis, qui plus tard sera le producteur de la piste aux étoiles. Les programmes sont plutôt apolitiques. On voit Carpentier donner des cours de boxe et Cochet donner des cours de tennis. Ces programmes-là, ils vont cesser le 12 août 1944 à 23h30. Et dans les jours qui suivent, il y a un gamin qui se balade dans le coin. Il entre, il voit les studios abandonnés, il raconte. Il y avait deux caméras, dont une était encore sous tension. Dans les bureaux, il n'y avait personne. Seules subsistaient quelques notes de service épinglées au mur. On peut dire pour rire que j'ai libéré la télévision. Qui parle ainsi? Qui a libéré la télévision? C'était Pierre Badel, figurez-vous, un des grands réalisateurs de Cognac-Jay, car vous avez bien compris que les studios de la rue Cognac-Jay vont connaître bientôt une nouvelle jeunesse et même, disons-le, une véritable naissance. Ce sera le début de la télévision française.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Franck qui retrace pour nous sur Europe 1 les tout débuts de la télé française.
Il faudrait peut-être qu'un jour on mette sur Internet ce qui se dit pendant les écrans publicitaires.
Cette émission continue.
Et oui, Michel Drucker est en train de nous raconter des choses incroyables. Michel Drucker qui connaît bien le quartier puisqu'il l'habite tout simplement.
J'habite derrière et j'ai, pendant les Jeux Olympiques de Tokyo, j'ai couché sur les toits, on triait les images avec un jeune garçon qui était monteur et qui est devenu célèbre puisqu'il est devenu éditeur, c'est Michel Lafont. Michel Lafont et moi, on avait 20 ans. On se demandait ce qu'on deviendrait. On avait 22 ans à peu près. Et moi, j'ai couché sur au pied des coupoles de la rue Cognac-Jay, que vous pouvez voir en vous promenant sur les quais, en se demandant ce qu'on deviendrait. Donc j'ai couché sur le toit de Cognac-Jay. J'ai grandi là. Et lorsque les studios qui donnent sur leur université ont été démolis, avant la démolition, Tchernia et moi, les deux rescapés de cette époque, on est venus. Et avant qu'ils en fassent un immeuble de grand standing, et avec mon épouse, car j'habite rue de l'université,
que nous saluons très chaleureusement,
qui est une de vos fans inconditionnelles, elle est présidente du fan club de Francfort, le fan club de leur université.
Bien sûr.
Et, c'est déjà bien.
Et on a failli acheter sur plan un appartement qui est à peu près la même dimension que le mien, au dernier étage, car j'aurais voulu habiter là où j'ai couché quand j'avais 20 ans. Et malheureusement, le dernier étage était un petit peu trop bas, sinon j'habiterais là.
Ah oui.
Et là où j'habite...
Dans le lieu historique.
Et là
alors.
Où j'habite, à côté du Modem, là au-dessus du bureau de François Bérou, derrière Brossolette. Brossolette, c'était une des archives, les archives de la Brossolette qui était l'université. Ma petite fille, à sa chambre, sur le bureau où j'ai débuté. C'est-à-dire, je vis dans ce quartier depuis maintenant 50 ans, car j'ai terminé mon service militaire, et je suis un des derniers de cette génération qui habite pratiquement toujours rue Cognac-Jay, où je promène mon chien tous les jours.
Et vous l'avez connu, le Pierre Badel, dont je parlais.
Alors, Pierre Badel, qui a vécu avec Rosy Vart. Pierre Badel est un très grand réalisateur de l'époque de Barma, le papa de Catherine, René Lucot, Jean Prat, enfin, tous les pionniers qui ont fait la fameuse télévision des buts de Chaumont. Et Pierre Badel était un dingue de football. Et le premier commentaire de reporter sportif que j'ai fait commentant le foot, c'est lui qui l'a réalisé.
Bonjour Emmanuel Hogue.
Bonjour.
Vous êtes donc le président de l'AFP. Vous avez dirigé pendant presque 10 ans l'Institut National de l'Audiovisuel, l'INA, qui est un peu la mecque de l'audiovisuel en France, bien entendu. Et même, on peut dire, aussi dans le monde, hein, puisque c'est une des plus belles
collections. C'est une institution très, très originale qui a été créée en 1974 et très rapidement le législateur a eu l'intelligence de comprendre que la télévision c'était certes du divertissement, du flux, mais c'était aussi une mémoire et qu'il fallait sans doute un endroit dédié à cette mémoire pour la transmettre aux générations futures.
Alors vous êtes l'auteur dans la célébrissime collection Découverte Gallimard de La Télé, une histoire en direct, où vous vous attardez, vous faites bien de le faire parce qu'on ne le fait pas suffisamment, vous vous attardez sur justement les tout débuts de cette télévision française, la toute fin des années 40 et le début des années 50. Il y avait très peu de récepteurs à l'époque évidemment.
Oui, alors il y avait quelques centaines de récepteurs qui étaient surtout sur Paris, parce que la télévision était une télévision qui était parisienne. On a évoqué la Tour Eiffel qui en était l'émetteur principal et c'est dans les années 50 que des émetteurs ont été après distribués dans le reste de la France, à Lille, à Lyon, pour permettre aux autres Français de pouvoir accéder à ces nouvelles émissions qui étaient en train de naître. Dans toutes les personnes que vous avez citées, il y a aussi quelqu'un qu'il faut aussi rappeler, c'est Henri de France,
ah,
qui était
sûr,
un
oui.
très très grand technicien et très grand responsable de l'émergence, et de, j'allais dire presque de l'explosion de la télévision et du téléviseur.
Lui, il avait mis au point un standard extrêmement précis à 819 lignes.
Oui, qui était une merveille pour l'époque.
Une télévision cinématographique, quasiment.
Oui, accéder à la qualité de l'image. Et l'histoire de la télévision, c'est aussi l'histoire de la technique, de la technologie et de la diffusion. Puis c'est vrai, vous l'évoquiez, au lendemain de la guerre, se met en place la télévision avec beaucoup des émissions, des formats qu'on va retrouver et qu'on retrouve encore. Alors bien évidemment, la première étape qu'il faut citer, c'est 1949, c'est l'arrivée du premier journal télévisé avec Pierre Sabag aux manettes et qui organise ce premier voyage en ballon, et on le voit tomber du ballon, et cette
scène
voilà, reconstituée, extraordinaire. C'est un journal qui dure à peine 5 minutes, donc c'est un journal très très court, mais déjà il mobilise l'attention.
C'était déjà pour suivre le Tour de France, si je me souviens bien.
Alors le Tour de France est arrivé en direct à la télévision en 46, juste avant, en 46 ou 47, mais on voit que le direct, vous l'évoquez, est aussi une nécessité absolue, parce que la télévision sans le direct n'est pas la télévision.
En 48, on retransmet aussi à la télévision la messe de minuit à Notre-Dame. Et puis, le premier grand événement retransmis, c'est le 24 février 1950 pour une première d'une pièce de Marivaux. Et il y a à l'époque seulement une poignée de téléspectateurs. Je me suis amusé là à relever le nombre de téléspectateurs à travers les décennies. 3500 en 1950, 3500 postes de télévision, 10 000 en 51, 25 000 en 52, 60 000 en 53. Et puis, vous voyez, ça augmente, 125 000 en 54, etc.
On dépassera. La reine Elisabeth va booster les ventes.
Et voilà, ça va tout changer.
En 53, oui.
C'est la première Eurovision et toute l'Europe converge vers un événement unique.
On y vient dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe 1 à l'histoire de la télévision française, toujours en compagnie de Michel Drucker et de Gilles Verland. Ils sont co-auteurs du livre 500 émissions mythiques de la télévision française, disponible aux éditions Flammarion. Également avec nous, Emmanuel Hoc, est président de l'agence France Presse et auteur, quant à lui, de La télé, une histoire en direct, disponible aux découvertes Gallimard.
Je peux vous prédire, Michel Drucker et Gilles Verland, pourtant je ne fais pas ce genre de prédiction très, très souvent, ni très facilement, mais là, je suis sûr que ce livre va être un grand succès, parce que dès qu'on le présente, les gens se jettent dedans pour aller retrouver les émissions qu'ils ont aimées, bien entendu. Il y en a pour chaque génération.
C'est ce qu'on dit dans la préface, une façon de passer une soirée télé sans allumer la télé.
C'est ça, formidable. Alors nous parlions du journal télévisé, c'était l'époque où Antoine de Caunes disait « Messieurs les rédacteurs, monsieur le téléspectateur, bonsoir ». Il y avait donc très peu de gens encore devant la télévision. Et puis très vite, la télé en général et le journal télévisé en particulier vont devenir des références, Michel Drucker, avec de grands noms. Vous parliez de Pierre Sabag, évidemment Léon Zitrone qui a été...
Zitrone,
Pierre Dumayet,
et puis Darget. Ben oui, qui sera vidé à un moment de la fin de la guerre d'Algérie.
Georges de Caunes,
évidemment. Et puis, il n'y en a plus beaucoup qui ont été des recordman de distance. Et là, on s'aperçoit que Pernaud aujourd'hui, que Claire Chazal et que Poivre ont battu des records. Presque 20 ans.
Qu'on écoute la voix de Léon Zitrone présentant le journal, justement.
Nous en venons maintenant aux questions internationales. Les États-Unis se passionnent pour l'affaire Watergate. Watergate, c'est en fait le nom du bâtiment où, jusqu'à présent, se trouvait le quartier général du Parti démocrate. Or, pendant la campagne présidentielle de l'année dernière, où le candidat démocrate McGovern se préparait à affronter le candidat républicain, qui était M. Richard Nixon, l'immeuble Watergate fut cambriolé. Et l'on dit que c'est ainsi que le Parti républicain aurait appris la stratégie électorale de ses adversaires, les membres du Parti démocrate. C'est peut-être le plus grand scandale politique américain depuis la fin de la guerre.
La voix, j'allais dire inimitable, mais si au contraire très imitable, de Léon Zitrone, qui va faire sa célébrité. Vous l'avez bien connu aussi, lui, Léon Zitrone, Michel Drucker.
J'ai tout fait avec Léon Zitrone. Je l'ai conduit sur Interville, je lui ai écrit ses fiches pour le 14 juillet. Je lui ai tendu les fiches quand il me demandait maintenant la Légion, tac, la fiche. Les chars MX-30, hop, la... Drucker, les mirages, j'arrive, j'aime ses droits. Et j'ai eu ma boîte de fortifiant et mon rond de serviette place Clichy où il habitait. J'ai conduit son Austin Maurice qui ne dépassait jamais la seconde et qui fumait beaucoup parce qu'il ne repoussait jamais le starter. Léon, à une époque, avait des voitures dont le volume était inversement proportionnel à sa surcharge pondérale. Ce qui fait que lorsqu'on traversait, je lui mettais un bavoir dans les contre-allées de Dame du Bosquet, car Madame Zitrone nous préparait un Tupperware le dimanche, car on faisait le journal de 13h, les courses de chevaux à Longchamp, sport dimanche, le journal de 20h, étaient les nuits.
et je faisais répéter les Kazakhs du tiercé devant les spectateurs qui passaient, les touristes ébahis, devant la plus grande star française après De Gaulle, dans une cime Camille avec de la buée, mangeant ses carottes râpées.
Justement, Emmanuel Hogg, De Gaulle et la période gaullienne, c'est le moment où la télévision devient un média de masse.
Oui, parce qu'entre 1958, où quand le général De Gaulle, il y a pas tout à fait un million de téléspectateurs et de téléviseurs, et à la fin de l'époque gaullienne, on est à plus de 25 millions de Français qui peuvent accéder désormais à la télévision.
Et ce qu'il faut dire, le nombre de téléviseurs est très loin de couvrir le nombre de téléspectateurs, parce qu'à l'époque, on va chez les voisins pour regarder la télévision, on la regarde devant les vitrines des...
Et dans les cafés.
Dans les cafés,
il y a même des téléclubs, comme les ciné-clubs.
Donc on se réunit pour le regarder.
Une explosion extraordinaire du nombre de téléspectateurs, et De Gaulle, naturellement, pressent immédiatement l'importance de la télévision pour asseoir son autorité, reconstruire la France, mettre en place la Ve République, faire face à la crise algérienne. Et donc c'est un moment absolument politique de l'histoire de la télévision.
Et alors, qui, à l'époque, regarde la télévision? Est-ce que c'est un média pour les élites, pour le peuple? Il faut quand même certains moyens pour avoir un récepteur chez soi.
Oui, mais on l'évoquait, la télévision se démocratise très, 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 très rapidement. Il faut le rappeler aussi, c'est que la couverture du territoire est quasiment achevée, ce qui fait que désormais, le plus petit village de France peut recevoir la télévision. Donc, c'est devenu une télévision de masse et populaire.
Nous nous intéressons aujourd'hui à l'histoire du petit écran, toujours en compagnie de Michel Drucker, de Gilles Verlan. Ils sont co-auteurs du livre 500 émissions mythiques de la télé française. Également avec nous, Emmanuel Hogg, président de l'AFP. Et puis vos réactions qui arrivent nombreuses sur Europe1.fr. Franck.
Et oui, et notamment Gérard nous dit que son premier souvenir de télévision au début des années 60, c'était, alors tenez-vous bien, les Perses d'Eschyle, donc du théâtre antique, diffusé simultanément à la radio pour la stéréophonie, nous dit Gérard. Il fallait positionner le poste de radio derrière les téléspectateurs. Et puis un peu plus tard, il y a eu « Livre mon ami » de Claude Santelli, qui m'a donné, dit-il, le goût de la lecture. Quelle extraordinaire machine de vocation a pu être la télévision. Une télévision qui était encore présentée, encadrée. On était à la grande époque des speakerines, Gilles Verlan.
Oui, avec Jacqueline Joubert, qui est la première speakerine célèbre, engagée dès 1949. Jacqueline Joubert, la maman d'Antoine Decaune, qui fut l'épouse de Georges Decaune, donc. Il y avait Jacqueline Joubert, il y avait ces femmes qui étaient pomponnées, permanentées, très élégantes, qui recevaient des sacs postaux de déclarations d'amour, de demandes en mariage. Il y avait Catherine Langeais, il y avait Jacqueline Cora, etc.
Qui ont fait
des émissions. Jacqueline Joubert, la première, qui est devenue productrice.
Catherine Langeais faisait une émission bien avant Masterchef. Avec Raymond Oliver, qui cuisinait toutes les semaines.
Et puis les philatélies, c'était pas très violent, hein, c'est le moins qu'on puisse dire.
Il y avait peu de cascades.
Comme j'étais collectionneur de timbres dans les années 60, je regardais avec passion. Alors, et le métier de speakerine a disparu plus ou moins dans les années 80. Et on se souvient évidemment des nuls jouant aux speakerines à qui généralement il arrivait plein de mésaventures dans leurs sketchs.
C'était parfois le cas, du reste.
Il n'y avait pas de budget pour les speakerines, ce qui fait qu'elles finançaient elles-mêmes leur tenue. Elles n'avaient pas le droit de montrer leurs genoux. La première qui a montré ses genoux, Noël Noblecourt, c'était un scandale épouvantable. Et Jacqueline Huette a fait rêver deux générations de Français.
Y compris toi.
Oui.
À l'époque, il n'y avait pas de publicité. La publicité arrive quand, Emmanuel Hogg?
Elle arrive en 1968. Et cela montre combien d'ailleurs ce média est devenu absolument populaire et rentré dans tous les foyers, donc est un relais de croissance pour les annonceurs. 1968, c'est aussi bien sûr l'arrivée des Shadocks, hein, qui introduit aussi une tonalité d'impertinence et un ton un peu irrévérencieux et un changement d'époque.
Donc la voix de
bien
Claude
sûr, la fameuse grève dont Michel Drucker a été un des acteurs en 68. suite. Et donc, c'est, voilà, c'est, à, c'est
vous
en tous
parlez,
les cas.
La... Vous en parlez très bien dans votre livre, Emmanuel, la toile de fond politique. Parce que
oui,
quand on parle de la télévision, on en parle également avec Gilles Verlan. Il y a en même temps une mise en perspective de Gilles sur la toile de fond politique de l'époque. D'ailleurs, moi, il m'arrive souvent dans mes interviews de dire la télévision de Général, la télévision de Pompidou, la télévision de Giscard, on lui doit l'éclatement de l'ORTF.
Propre, hein, en 74.
Alors, la télévision qui libérait les ondes par Mitterrand, la privatisation, et la télévision de Sarko, la télévision de Chirac, et maintenant, quelque part, on va déjà parler de la télévision de Hollande, encore que maintenant, la nouvelle technologie a fait tout imploser.
Oui, a tout fait d'exploser. Les possibilités de régulation, de contrôle et d'organisation ne sont
maintenant
plus du tout de la même nature.
Nous allons aborder bientôt un dérivage plus récent, plus contemporain, mais ce qui est quand même amusant, c'est de dire qu'à l'époque, non seulement il n'y avait pas de publicité, quand je dis à l'époque, c'est donc avant 68 en gros, mais pour l'essentiel, il n'y avait pas encore de magnétoscope. C'est-à-dire que, alors il y avait certes la télécinéma, hein, qui
le
servait,
kinescope.
Le kinescope, oui.
On filmait l'écran avec une pellicule.
Mais ça, c'était réservé essentiellement aux magazines d'actualité, à tout ce qui était, disons, noble, pour le divertissement, pour les soirées, etc., pour les dramatiques, comme on disait, c'est-à-dire tout ce qui était fiction et théâtre, c'était fait en direct. La célèbre émission d'histoire, et je salue évidemment très chaleureusement Alain Decaux,
ouais.
La caméra explore le temps. Jusqu'en 1962, la caméra explore le temps, les dramatiques de l'émission sont faites en direct par des comédiens.
D'ailleurs,
c'est incroyable.
Quand on me demande souvent la différence entre cette époque et maintenant, tout était en direct.
Mais
c'est
oui.
Ça, c'est ça la grande différence, le direct.
Et on voyait d'ailleurs des perches passer, des câbles, des décors qui bougeaient un tout petit peu. Donc il y avait un côté artisanal assez formidable et exceptionnel avec cette fameuse école qu'on a rapidement évoqué, l'école des buts de Chaumont.
Ah,
parce
oui.
que c'est,
eh oui.
Il y avait une répartition dans cette télévision un peu politique entre une rédaction qui était quand même très, auquel le pouvoir était très attentif, et puis toute cette partie plutôt
artistique,
fiction,
oui.
artistique, buts de Chaumont, qui était plus proche du parti communiste et qui était au buts de Chaumont. Et donc il y avait ces deux familles en tension pour créer
Stelio,
cette télévision.
Stelio Lorenzi,
pour ce qui est de la caméra explore le temps.
Ouais.
On parlait justement d'Alain Decaux. Le voilà un peu plus tard, puisqu'il présentait seul face à la caméra. Et comme dit Michel Drucker, sans prompteur, une émission que une grande partie de nos auditeurs n'ont pas oubliée, évidemment, c'était Alain Decaux raconte.
Le 31 juillet 1914, à 21h40, Jean Jaurès s'est attablé au Café du Croissant à l'angle de la rue Montmartre. Il fait très chaud. Alors, au Café du Croissant, on a laissé ouvertes toutes les fenêtres. Et Jaurès, sur sa banquette, est justement assis devant une de ses fenêtres, le dos à la fenêtre. Et entre la rue et lui, il n'y a qu'un rideau. Et tout à coup, une main soulève ce rideau. Et cette main tient un revolver. Deux coups de feu à une seconde l'un de l'autre. Alors un cri, un tumulte. Ils ont tué Jaurès.
Ils ont tué Jaurès, dit
Alain Decaux. Il est tout seul. Moi, j'étais assis à côté de lui souvent. Il n'y a rien. Tout seul. Et on y est. Il fait chaud.
Deux coups de feu.
Deux coups
à
de
une
feu.
Seconde d'intervalle.
Mais j'ouvre une parenthèse. Vous êtes vous, Franck Ferrand, un enfant de Decaux et de Castelot.
Oui, mais comme je l'assume pleinement.
Comme Frédéric Mitterrand est un enfant de Zitrone. Et je suppose que c'est cette génération qui a suscité votre vocation, non ?
Absolument. Moi, je ne manquais jamais Alain Decaux pour rien au monde. Et je le salue encore une fois très, très chaleureusement. Il est notre maître à tous, ah. Disons-le.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et nous allons retrouver un autre élève du collège de Sport Dimanche, Michel Drucker. Élève Michel Drucker, vous avez passé votre examen de passage. Alors vous allez nous dire tout ce que vous savez sur l'athlétisme et sans trembler. Hein.
Oui, monsieur.
Commençons
par les principaux résultats enregistrés à l'étranger. À Kassel, en Allemagne de l'Ouest, la première Coupe d'Europe d'athlétisme a connu aujourd'hui son épilogue avec l'édition féminine.
Ce sont des souvenirs, ça, Michel Drucker.
C'est plus que des souvenirs. C'est que le standard de cognac j'ai imposé quand il a dit sans trembler, parce que le week-end d'avant m'avait présenté. J'ai été pris d'une crise de Parkinson précoce pendant 10 minutes même. Et on m'avait pas dit que lorsqu'on se présente à la télévision, il faut mettre ses feuilles à plat. Et moi, je les ai pris à bras le corps, donc on m'a vu trembler pendant 10 minutes. 10 minutes, c'est considérable. Bon, c'est une éternité, 10 minutes. Le standard a implosé. Et le lendemain, dans la rue,
J'habitais donc Place Clichy avec Zéon Zitron, pratiquement. Je prenais le 80 qui allait de la Place Clichy à l'avenue Bosquet, il y avait les plateformes, et je suis monté dans l'autobus. C'était 7h du matin, les Parisiens dorment encore un peu, ils se sont tous retournés. Ils connaissaient évidemment pas mon nom, mais ils avaient vu ça, la France entière avait vu un gamin de 20 ans pris d'une crise de tremblement, il n'y avait qu'une chaîne. Ils sont tous retournés en prenant le Parisien ou François dans leurs mains, en simulant le
oh,
tremblement et en me disant « Est-ce que ça va mieux depuis hier soir ?» C'est-à-dire que je me promenais, moi, pendant des mois dans les rues de toute la France comme jeune reporter sportif, et on me parlait de ça. Et c'est là où mon père a eu, dans le film que Jean-Daniel Vérac a consacré à mon livre qui passera bientôt sur France 2, « Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» C'est la dernière scène du film qui est authentique. C'est que mon père appelle le lendemain Monsieur Marcillac. Il dit « Je suis le père du gamin que vous avez mis hier à l'antenne. Il n'a pas de diplôme. Il a une syntaxe approximative. La grammaire, n'en parlons pas. C'est un anxieux. Il ronge ses ongles. Il a déjà fait un début d'ulcère à l'estomac. Vous ne pouvez pas laisser ce gamin devant les caméras. » Je suis le seul homme de télévision dont les parents ont demandé au patron de le retirer de l'antenne après la première apparition. Et Marcillac m'a répété ça jusqu'à sa mort. Il m'a dit, j'oublierai jamais, Michel, le coup de téléphone de votre papa le lendemain. Et Marcillac lui a dit, écoutez docteur, il va falloir vous habituer parce qu'on va le mettre à l'antenne beaucoup.
Nul n'est prophète en son pays, ouais. Mais enfin Marcillac avait bien compris, lui, il voyait.
C'est un souvenir émouvant, j'étais entre Zitrone et Coudert. Imaginez un gamin qui commence aujourd'hui, il n'y a qu'une seule chaîne, il est entre Pernaud, Delahousse et Chazal. Vous imaginez comme baptême.
La deuxième chaîne, ça vient un peu plus tard, Gilles Vernon.
Oui, c'est la date exacte, c'est 1964.
La couleur arrive aussi.
Et la couleur en 67.
Oui. C'est un record expérimental, hein, 67. Oui. Hein.
Ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est que ceux qui présentent et qui lancent la télévision couleur portent des costumes sombres, à l'exception de l'un d'eux qui porte un costume bleu un peu pimpant et une cravate rouge. Et ce soir-là, je pense que la première émission couleur à laquelle ont droit quelques Français, parce que le nombre de téléviseurs couleur à l'époque est quand même extrêmement restreint, c'était un show Marcel Amont. Toute une époque. Moi, j'ai des souvenirs de ça parce que j'ai grandi en Belgique, mais je regardais la télévision française grâce à l'émetteur de Lille. Ah oui. Donc, j'étais déjà un accro de la télévision.
Et ton papa était réalisateur.
D'autant que mon père était réalisateur à la télévision belge. Oui.
Alors, tout en vous écoutant, je feuillette cet album incroyable où vous avez répertorié 500 émissions qui ont marqué.
Non, le titre est mensonger, il y en a un peu plus de 500.
Il y en a même plus, oui. Mais enfin, il fallait arrondir.
Il fallait arrondir, oui.
Et on revit effectivement toutes les époques. Là, je suis dans les années 70. C'est toute une génération. Vous avez choisi ces émissions sur quels critères ?
Michel et moi, nous avons choisi les émissions sans aucun parti pris, avec le moins de subjectivité possible, et en oubliant le fait que pour certaines émissions, nous n'appartenons pas du tout au cœur de cible. Il est évident que ni Michel ni moi n'étions dans le cœur de cible pour L'île aux enfants, le Club Dorothée ou plus tard Love Story. Mais ce sont des émissions mythiques, en tout cas des émissions marquantes, qui ont marqué toutes les générations.
Et qui n'ont pas forcément duré. Bon, l'émission la plus ancienne, c'est la messe, le jour du Seigneur, ouais. Et puis t'as la ça, etc. Mais par exemple, Le Petit Rapporteur, qui est une émission mythique, n'a pas duré très longtemps.
Ça a duré quelques mois. Il y a même une émission qui a duré 5 jours seulement.
Les News. Avec Ruquier et Ardisson.
Voilà. Sur TF1.
Voilà, oui. Qui a été supprimée au bout de 5 jours.
On a
même inclus dans ce livre, Les 500 émissions mythiques, des émissions qui n'ont connu qu'un seul numéro, mais qui étaient absolument formidables. Un show Smet ou une émission d'Averti.
Tilt Magazine.
Ouais.
Alors, Tilt,
qui m'a fait connaître du plus grand public avec Claude François.
Il y en a eu une saison.
Il y en a eu qu'un, Tilt Magazine.
Non, il y en a eu plusieurs.
C'est avec le cœur, il y en a eu qu'un.
Avec le cœur, il y en a eu.
Avec le cœur, avec Claude François, on n'en a fait qu'une.
Certaines ont duré, je pense à Apostrophe, je pense au Grand Échiquier.
Elle s'y trouve aussi dans le bouquin.
Le dossier de l'écran, j'étais à la page des dossiers de l'écran. Tout ça, c'est quand même une télévision. Alors, dont on a la nostalgie, à juste titre, Michel Drucker, est-ce qu'elle était si extraordinaire?
Alors, il ne faut pas dire que c'était mieux avant.
C'est ça,
certainement. Mais ils ont inventé Jacques-Antoine qui vient de nous quitter. On lui doit tous les plus grands jeux.
Chasse au trésor,
Fort Boyard.
Les jeux de Pierre Belmar.
Et Armand Jameau. Oui. Armand Jameau, Belmar, toute cette équipe et surtout Jacques-Antoine, ils ont inventé. Donc c'est vrai, on voulait rendre hommage. Mais il y a des choses formidables. Par exemple, quand il y aura un deuxième tome, on sera peut-être plus là pour le voir parce qu'on a écarté les séries américaines et les séries françaises. Sinon, le livre aurait fait 1000 pages. Mais par exemple, dans les émissions que je considère comme déjà mythiques, il y a l'émission de Lopez. Ah oui, mais oui. Rendez-vous en terre inconnue, qui est une émission qui va rester.
Quand on voit à quel point, oui, elle marque actuellement les Français, c'est certain qu'elle restera. Il faut rendre hommage aux grands patrons de chaîne. Je pense à Marcel Julien, bien entendu, qui a joué un rôle très important au milieu des années 70.
Des groupes.
Plus tard à Pierre Desgroupes, à Hervé Bourges, enfin tous ces gens-là ont joué un rôle important dans l'évolution.
C'était les saltimbanques, et Carolis compris. Hein. Enfin, Monsieur Hogg, c'est ça mieux que moi, mais il y a eu deux catégories. Il y a eu les grands hauts fonctionnaires nommés par l'État qui restent l'actionnaire et qui étaient des politiques, et puis il y a eu les saltimbanques.
Et puis, au tout début, il y a quelqu'un dont on peut se rappeler, enfin, qui est de la télévision des années 50, c'est Jean d'Arcy.
Ah,
parce
Jean
que
oui,
c'est Jean d'Arcy qui invente quasiment toute la grammaire et le vocabulaire de la télévision française avec les divertissements, les directs, le sport, les feuilletons. Enfin, tous ces grands genres qui sont mis en place dans les années 50 et après qui naturellement vont être développés, revisités en permanence et réinventés, c'est Jean d'Arcy qui est une figure oubliée mais qui est absolument centrale dans l'écriture télévisuelle de la France et qui héritait non seulement de parfois des exemples américains mais aussi beaucoup du monde du théâtre, parce que il faut aussi ne pas oublier que notamment tous les hommes de la fiction, une grande partie des hommes de la fiction télévisuelle ne viennent pas du cinéma, mais viennent du théâtre.
C'est le côté direct de la télévision. C'est
que
pendant très longtemps, la télévision, comme le disait Michel Drucker, était le média du direct. C'est la radio qui l'est aujourd'hui.
Le théâtre ce soir, c'est revenu.
Oui.
France 2 a remis au goût du jour les grands
Nicolas Boisneau,
Édouard VII entre autres, Arditi, Line Renaud, etc., Muriel Robin. Ça, c'est le clin d'œil au théâtre ce soir.
Michel, dans cette carrière où vous avez eu tellement d'émissions, moi je me rappelle les rendez-vous du dimanche, bien entendu, mais s'il y avait une émission que vous deviez garder
De toute la télévision?
Non, de vos émissions à vous.
La prochaine.
Alors moi, si vous voulez, moi je garderai évidemment l'émission Champs-Élysées. On était au tout début des années 1980.
De cet accueil chaleureux et pardon pour cette semaine de retard. C'est la première de Champs-Élysées. Nous nous retrouverons tous les samedis à 20h30 sur Antenne 2 pendant 70 minutes environ, divertissantes après une semaine difficile. Vous méritez aussi de vous divertir. Cette émission, sa modeste ambition est de vous faire oublier vos soucis en vous faisant découvrir des visages nouveaux qui seront associés à des locomotives. L'émission est publique. Il n'y a pas beaucoup de place. Il ne faut pas nous en vouloir. C'est pas Baltard. Mais si vous êtes patient, comme l'émission est hebdomadaire, si vous nous écrivez dès maintenant, j'espère que vous recevrez vos places. J'aimerais pour commencer que vos applaudissements aillent à ceux qui ont beaucoup travaillé avec nous. Ils sont un petit peu tremblants ce soir, car transformer un petit théâtre en studio de télévision, ça n'est pas évident. Ce sont tous les techniciens de la SFP.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Et nous sommes toujours au cœur de l'histoire de la télévision française, Franck.
Je ne voudrais pas donner le sentiment que nous sommes d'irréductibles nostalgiques, et d'autant moins que je suis en train de parcourir les pages de cet ouvrage de Michel Drucker et Gilles Verland, les 500 émissions mythiques de la télévision française, et on a un très grand nombre de pépites beaucoup plus récentes. Je suis au début des années 90, là, on parlait tout à l'heure de Nulle part ailleurs, évidemment, mais c'est l'époque où arrivent les grands jeux, qui sont toujours à l'antenne, comme Question pour un champion, bien entendu. C'est l'époque où sont lancées des émissions comme Sexy Folies, Le Divan, qui vont un peu plus loin que d'habitude dans le monde de la psychologie.
On parlait de reality show avant de parler de télé-réalité.
Et oui, c'est ça. Et il y avait cette fabuleuse émission, je l'ai là sous les yeux, avec un commentaire. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que les émissions sont thématisées dans ce livre, hein, c'est-à-dire que vous ne mélangez pas tous les types d'émissions. Et il y a des commentaires de Michel Drucker, des commentaires par rapport à ce qu'il a connu. Et là, j'ai l'émission de Bernard Rapp, l'assiette anglaise, c'était un bonheur, ça.
Magnifique. Qui était metteur en scène, qui a fait un ou deux films magnifiques, dont un avec Giraudeau. À l'assiette anglaise, c'était vachement bien. Mais Froufrou, c'était une vraie trouvaille.
Oui,
c'est là où
j'ai
découvert Nikos Haïagas, entre autres. Ce qu'avait fait Christine Bravo avec Ardisson, c'était très 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 bien. Et puis alors Gilles a fait un travail considérable. Quand il est venu me voir il y a 2 ans et demi, on s'est dit, bizarrement, ça n'a pas été fait. Et on s'est dit, mais on sortira ça quand? Dans 3 ans, dans 4 ans, la tâche était considérable. Il a beaucoup, beaucoup travaillé. Gilles, et le hasard fait que nous sommes voisins en Provence, qui a facilité les choses. Mais je le remercie de m'avoir appelé pour faire ça, parce que ça m'a passionné. ça m'a fait revenir des années en arrière, et je me suis aperçu que j'avais encore une bonne mémoire compte tenu de mon grand âge.
Ah non, tu as une mémoire effrayante. Tu te souviens absolument de tout. Non seulement ça, et puis tu, ce qui a été un régal aussi dans le travail avec Michel, c'est que il continue à être fan de télévision, à regarder la télévision et à pouvoir parler avec autant de pertinence des émissions d'aujourd'hui.
Alors, j'ai essayé de faire un petit peu d'humour aussi. Il y a souvent des plaisanteries, des vannes qui sont...
Ça tacle un petit peu de temps en temps.
Oui, non mais heureusement, parce que ça correspond un peu à mon état d'esprit, parce que maintenant, quand on a près de 50 ans de télévision, il ne faut pas non plus prendre au sérieux, donc on fait sérieusement...
Ce n'est que de la télévision.
Oui, et puis, mais c'est vrai qu'il y a certaines vannes qui passent mieux à l'oral qu'à l'écrit.
Pour certains, en tout cas.
Pour certains, de gars.
Pour moi, elle reste drôle.
Alors, dans les années 90, on voit arriver un certain nombre de nouveautés. Alors d'abord, il y a eu avant de grandes expériences, au tout début, là. Au tournant de la décennie, il y a l'aventure de la 5, aventure un peu avortée, l'aventure Canal+, la chaîne à péage, et puis la multiplication des chaînes, les bouquets satellites, bientôt plus tard la TNT. La télévision a totalement changé, évidemment, Emmanuel Hogue. C'est plus,
on parle entre plus de la chose, une télévision qui diffusait en noir et blanc une heure par jour, juste à Paris, et puis désormais plus de 500 chaînes accessibles immédiatement à partir d'une parabole ou d'un câble. Le dispositif, l'économie de la télévision a complètement été bouleversée.
Et puis, la forme a changé, mais le fond aussi, avec l'arrivée notamment de la télé-réalité, qui est une sorte de lame de fond, qui aujourd'hui encore est très présente sur un très grand nombre de chaînes. Je vous rappelle Love Story. À l'époque, tout le monde disait que c'était impossible et tout le monde regardait ça.
Générique célèbre de Love Story diffusé sur M6, Franck.
Ça fait partie de la télévision, Michel Drucker, la télé-réalité.
Ouais, je crois que c'est, moi, une certaine télé-réalité, moi, je pense qu'elle a vécu. Je ne parle pas des émissions de Radio Crochet qui ont révélé des grands talents, qui ont été des accélérateurs de talents. C'est vrai que Nolwenn Leroy, que Jennifer, que Sophia Issaïdi, que Julien Doré, que Christian Willem ont été... ils ont eu raison d'y participer. Non, je parle à la télévision de laboratoire qui filme un petit peu d'enfermement. Ça, je pense que c'est fini.
Alors, il y a une autre évolution, et je suis bien placé pour en parler, c'est la déportation progressive des émissions culturelles tard le soir, voire très tard, dans ce qu'on appelle la deuxième, voire la troisième partie de soirée.
Alors que Pivot était à 21h30 et voilà. Pendant des années.
Ouais, c'était...
Oui, c'est étrange, mais François de Closet avait déjà écrit un bouquin il y a quoi, c'est dans les années 80, qui s'appelait Le système EPM, le système et puis merde, qui qualifiait ces émissions, il faut bien faire de la culture, et puis merde, on la met en deuxième partie de soirée.
Dès l'instant où on a demandé à la télévision de s'adresser aux téléspectateurs en termes de consommateurs, puisque la publicité c'était le nerf de la guerre.
Et la mesure d'audience.
Ça a changé l'audience. Et puis il y a eu cette fameuse phrase, la ménagère de moins de 50 ans, qui a failli fusiller toute une génération. Maintenant c'est la mère de moins de 60 ans. Puis maintenant être senior, ce n'est plus tabou. Ce qui m'arrange bien.
Le cadeau. c'est même pas tabou du tout, disons-le. Le cadeau idéal de cette fin d'année, Michel Drucker et Gilles Verlan, les 500 émissions mythiques de la télévision française, c'est coédité par Flammarion et Lina, et je remercie particulièrement Lina, que vous avez dirigée, Emmanuel Hogue, de nous avoir prêté tous les extraits que vous avez entendus aujourd'hui. Votre ouvrage à vous, La télévision, une histoire en direct, c'est dans la collection Découverte Gallimard. Merci beaucoup de nous avoir fait rêver pendant cette
heure.
Merci
beaucoup.
Merci à vous. Merci beaucoup.